Marc chapitre 2, versets 1 à 12. C'est un récit que nous connaissons pour ceux qui lisent la Bible. Jésus est au commencement de son ministère et il va dans une ville appelée Capernaum. Et là, il va se passer un certain nombre de choses que nous allons découvrir ensemble. Déjà, il entre dans la maison de la belle-mère de Simon, qui était couchée, atteint d'une fièvre. Et là, Jésus va manifester sa puissance pour la relever. Et quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et c'est le récit que nous allons lire ensemble. Nous lisons ceci au chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà la conclusion de ce récit. Ces hommes et ces femmes qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu et qui vont s'écrier, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous savez, quand on n'a pas goûté à l'amour de Dieu, quand on n'a pas expérimenté la puissance de Dieu, on ne peut pas s'étonner de n'avoir jamais rien vu. Oui, c'est pas en ayant goûté à l'amour et à la puissance de Dieu que l'on peut voir qu'il est celui qui aime, qu'il est celui qui manifeste son amour à l'égard des hommes. Jésus, comme je l'ai dit en introduction, est dans cette ville appelée Capernaum. La ville signifie, c'est la ville de Naum, ville de la consolation. C'est ce que le mot signifie, ville de la consolation. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il ne se plaît pas à voir l'homme dans sa tristesse et dans ses déboires. Il se plaît à venir à nos côtés pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous soutenir quand nous traversons des moments difficiles. Et de vous à moi, vous savez comme moi que nul n'est à l'abri de toute tristesse, de tout désespoir. Nous sommes dans ce monde, nous vivons comme ceux de ce monde. Et puisque nous sommes dans ce monde, nous subissons les mêmes choses que ceux du monde. Alors, la tristesse peut envahir nos cœurs. L'angoisse peut envahir nos vies. Plein de choses peuvent susciter des mauvais sentiments dans nos cœurs, mais Dieu est ce Dieu-là qui veut apporter la consolation. Malgré la situation que nous vivons, nous pouvons tout de même réaliser qu'il est près de nous. Il est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui s'attendent à lui. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Alors qu'une multitude s'est rassemblée autour, ils ont peut-être entendu parler qu'il guérissait des malades. Ils ont entendu parler peut-être qu'il faisait des miracles. La preuve en est que quelque temps avant, il a relevé la belle-mère de Simon qui était atteinte de cette fièvre. Et Jésus, par sa puissance, l'a relevée. Peut-être que certains ont vu ce que Jésus a fait et sont venus pour l'entendre, pour l'écouter. Et là, nous voyons une situation également où des amis vont soutenir quelqu'un qui était paralysé. Trop de choses paralysent notre monde. Mais ce qui paralyse le plus, c'est le péché. Ce qui paralyse l'homme, ce n'est pas son état physique, mais c'est l'état de son cœur. Quand le cœur n'est pas droit devant Dieu, quand le cœur n'a pas fait la paix avec Dieu, voilà ce qui paralyse, voilà ce qui bloque, voilà ce qui empêche l'homme de vivre heureux et épanoui, voilà ce qui nous empêche de nous ouvrir à la grâce de Dieu. Il s'assemble autour de Jésus. Et comme nous pouvons le lire, un si grand nombre de personnes étaient là devant la porte, ne pouvaient plus, de sorte que voilà, l'espace ne pouvait plus les contenir. On imagine une grande foule, un peuple nombreux, qui s'assemble autour de celui qui proclame l'amour de Dieu, celui qui proclame la bonne nouvelle. Il nous a dit, il leur annonçait la parole, c'est la parole de Dieu. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, en plein feu sur la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est elle qui est empreinte d'amour, empreinte de vérité, elle est empreinte de puissance, parce que c'est par elle que Dieu nous permet de le découvrir. Une situation où des hommes pouvaient demeurer dans leur tristesse, dans leur désarroi. Comme malheureusement nous pouvons voir autour de nous. Parce que parfois, quand il n'y a plus de solution humainement parlant, on se replie sur soi-même. On n'arrive plus à faire confiance. On ne s'attend même plus à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ces hommes, alors qu'un homme s'est assemblé devant cette maison pour entendre Jésus, eux aussi, ils ont entendu me parler de Jésus. Ils vont manifester leur foi qui va les pousser à venir. Lorsqu'ils vont arriver, il n'y avait point d'espace. Par où passer? Par où passer pour atteindre Jésus? Vous savez, parfois, il peut y avoir des blocages, toutes sortes de situations qui empêchent l'homme d'atteindre Dieu. Ça peut être notre propre personne, notre orgueil, ça peut être la famille, ça peut être ma situation financière, quelles que soient les raisons, beaucoup de choses peuvent nous empêcher. Mais nous voyons là que l'empêchement n'est plus empêchement. Parce que lorsqu'ils vont se trouver là, dans une situation où ils pouvaient être désespérés, ils vont se dire, tiens, on va faire l'impossible. On va faire quelque chose qui étonne les hommes. Il nous est dit qu'ils vont découvrir le toit. Ah, ce n'était pas quelque chose en étage, hein? Parce que si on devait découvrir ce toit cet après-midi pour faire descendre quelqu'un, je ne sais pas combien de temps ça nous prendrait. Mais le toit, à cette époque-là, était fait avec des pailles, des choses qui étaient facilement démontables. Et c'est là qu'ils vont faire une ouverture. Une ouverture pour pouvoir passer cet homme avec son lit. Quand on veut venir à Jésus, on ne doit pas se laisser empêcher, quelles que soient les raisons. Parce que quand on a goûté à son amour, quand on sait qui il est, on refuse tout empêchement. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui avaient des raisons de se laisser aller dans leur empêchement pour atteindre Jésus. Nous avons l'exemple de la femme à la perte de sang. À cause de sa situation, Elle était impure, elle n'avait pas le droit de se mêler aux hommes. Mais elle va manifester sa foi en disant, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, elle s'est frayé un chemin. Que dirais-je, on l'a vu la semaine dernière de cet homme Zaché, sa petitesse. Et était un empêchement, la foule était un empêchement, mais il a couru, il est allé se percher sur cet arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Parfois, ce sont même nos pensées qui nous empêchent, d'aller jusqu'à Jésus. Et quand on s'arrête en cours de route, on ne doit pas s'étonner que les choses vont en s'empirant. Mais quand on va jusqu'au bout, en mettant de côté tout obstacle et en se disant, Seigneur, quelles que soient les raisons, je sais qui tu es, je sais que tu es celui dont la Bible parle, tu es cet homme qui a livré sa vie, tu es cet homme qui est venu par amour, tu es venu de la part de Dieu. Quand on sait qui il est, on ne s'empêchera pas d'aller jusqu'à lui. Parce qu'on sait qu'il est la délivrance, on sait qu'il est le Dieu de la victoire, on sait qu'il peut nous venir en aide. Vous savez, malheureusement, quand on se laisse accaparer par nos empêchements, c'est là qu'on arrive à se faire des conclusions qui n'ont pas lieu d'être. D'autres disent, si je suis dans cette situation, c'est parce que Dieu ne m'aime plus. Si je suis dans cette situation, elle ne changera certainement pas. Et on écoute cette voix, malheureusement, du diable qui nous culpabilise, qui va nous martyriser au point que nous sommes à bout de force. Et malheureusement, parfois, on vient même à commettre l'irréparable. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que Dieu aime les hommes. La parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. C'est un mensonge parce que Dieu, c'est lui-même qui s'est approché de l'homme malgré son éloignement. C'est Dieu qui s'est approché de l'homme premièrement. Pourquoi ? Parce qu'il veut une chose, le bonheur de l'homme. Le bonheur. J'aimerais te dire cet après-midi, Dieu t'aime et il veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Il ne te demande pas de t'approcher d'un homme. Il ne te demande pas de t'approcher d'une église. Il te demande simplement, approche-toi de lui. Ne t'approche même pas du pasteur. Ne t'approche pas de celui ou de celle qui est à côté de toi. Approche-toi de celui qui a livré sa vie, de ton sauveur, de celui qui veut ton bonheur, Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de situations paralysent les hommes et les empêchent de s'épanouir. Mais Dieu, qui est riche en compassion, voit la souffrance. Lui qui est riche en compassion ne nous laisse pas dans nos difficultés, mais il nous tend la main. Cet après-midi, veux-tu saisir cette main tendue et ne pas te laisser arrêter par à tous ces empêchements qui se présentent à toi. Alors qu'ils s'approchent, ils sont là, ils vont découvrir le toit, ils vont faire descendre devant Jésus cet homme. Il nous est dit ceci, « Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ah Seigneur, tu te trompes de problème, là. C'est pas pour ça qu'il est venu. C'est pas pour ça qu'il est venu, Seigneur. Il est venu pour que tu le guérisses. Il est venu pour que tu le relèves. Et parfois, quand on s'approche de Dieu, Dieu fait quelque chose qui échappe à notre entendement et on se dit, Seigneur, non, c'est pas ce pourquoi je suis venu. On s'attend à quelque chose et Dieu nous donne autre chose, tout en oubliant que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Oui, Seigneur. Il est là, il est dans sa souffrance, il est dans son besoin et toi, tu lui parles de ses péchés. Oui, parce que Jésus connaissait le grand problème de cet homme. Il connaissait déjà ce qui le paralysait le plus. Son plus grand besoin, ce n'était pas d'être relevé de cette situation. Son plus grand besoin n'était pas de recevoir la guérison physique. Son plus grand besoin, c'était la guérison de son âme. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, quand ils s'approchent de Dieu, sont frustrés. Sont frustrés pourquoi ? Parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu intervienne comme eux, ils le veulent. Alors que Dieu voit nos cœurs, il voit nos besoins, il sait où mettre le doigt pour nous amener à aller plus loin avec lui. Jésus, voyant leur foi, va dire au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça cet après-midi. Entendre Dieu lui dire, tes péchés sont pardonnés. Peut-être que tu es venu pour une autre raison cet après-midi, je ne sais pas. Peut-être que tu es venu que Dieu intervienne dans ton corps, c'est légitime. Peut-être que tu es venu pour que Dieu intervienne dans une situation, c'est légitime. Mais Jésus te dit cet après-midi, à cause de ta foi, tes péchés sont pardonnés. Veux-tu l'accepter? Parce que de là va découler un certain nombre de choses, une vie heureuse, une vie épanouie. Parce que lui-même dira dans sa parole, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde? Il aurait pu dire à cet homme, voyant leur foi, il pouvait dire, « Voilà, mon enfant, tu es guéri, mon enfant, relève-toi. » Mais ce n'est pas Jésus, ce que Jésus va dire, il va pointer du doigt, toucher du doigt le plus grand problème en disant, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Non, le Seigneur ne s'est pas trompé de problème. Il ne s'est pas trompé. Peut-être c'est ce que tu t'étais dit, mais il ne s'est pas trompé. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Il connaît plus que toi-même ton besoin. Il est celui qui connaît toutes choses. Il voit au-delà de la souffrance physique, de la souffrance morale, de toutes sortes de souffrances, Dieu voit la souffrance spirituelle de notre monde. Parce que c'est pour cela qu'il a livré son fils Jésus. Jésus, la cause, la raison première de sa venue n'était pas pour venir, c'est pas pour nous relever de nos situations, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos maladies. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'a pas dit quiconque croit en lui, soit guéri, c'est la suite après. Mais la première des choses, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de mon âme. C'est ce que Dieu veut premièrement. Oui, le besoin spirituel de cet homme était le plus grand problème. Pas sa paralysie. Pas sa paralysie. Un jour, on nous a raconté cette histoire de cet homme qui, semaine après semaine, venait aux réunions. Et un après-midi, le serviteur de Dieu a fait un appel en disant, voilà, si quelqu'un a besoin de l'intervention de Dieu dans son corps, dans sa vie, qu'il se lève. Et cet homme qui était là, s'attendant à ce que Dieu intervienne, s'est approché. L'homme de Dieu a prié pour lui et il est reparti. Quelque temps après, il le croise dans la ville. Et il se dit, mais tiens, je me souviens de ton nom. C'est l'homme même qui est allé dire au pasteur, vous souvenez de moi? Il dit, non, je ne me souviens pas. Il dit, oui, c'est moi, je suis venu ce jour-là, vous avez prié pour moi, voilà, et je suis parti. Et le pasteur lui dit, mais et alors? Il dit, mais je ne suis pas revenu parce que j'ai eu ce que je voulais. Vous voyez la tristesse? J'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. parce qu'il a obtenu la réponse à son besoin, il n'a plus voulu de Dieu. Quelle tristesse! Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il est mention, il est fait mention de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Prêchant d'abord la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est dit, il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait. Ah, ne renversons pas les rôles. Ne renversons pas l'ordre que Dieu lui-même s'est fixé pour les hommes. On s'attend à ce que Dieu guérisse notre corps. On s'attend à ce que Dieu intervienne dans mon besoin. Oui, Seigneur, j'ai tel besoin. Je crie à toi. Viens au secours de mon besoin. J'ai cette difficulté. Secours-moi. Oui, Dieu veut le faire. Mais il s'attend premièrement à ce que tu règles le problème du péché. Il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait. Il prêchait et ça vient après. Lorsque Jésus va voir la foi de ces quatre hommes, qu'est-ce qu'il va dire? Voyant la foi, leur foi, il dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi Jésus prêchait la bonne nouvelle? Pour que les hommes sentent leur misère après avoir goûté à l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu révèle l'état de notre cœur. La parole de Dieu montre que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la vérité. Oui, la Bible, la parole de Dieu est la vérité, mais elle déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus prêche la bonne nouvelle, tout comme les apôtres, tout comme nous, ce que nous faisons là, dans le but que l'homme goûte à l'amour de Dieu, sente sa misère, se tourne vers lui et se repente de ses péchés pour recevoir la vie éternelle. Vous savez, si nous souffrons dans ce monde, c'est parce que le péché a occasionné tout ce que nous voyons autour de nous. Je ne dis pas que si quelqu'un souffre, c'est à cause de son péché. Ce n'est pas ce que je dis. Entendez bien, ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Mais si le monde est en souffrance, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Paul le dira lui-même dans son épître aux Romains. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Mais gloire soit rendue au Seigneur, comme par un seul homme, voilà, par la désobéissance d'Adam, le péché est entré, par l'obéissance de Jésus-Christ, la vie de Dieu également est entrée dans le monde. Dieu veut que l'homme sente sa misère au lieu de courir après la satisfaction de ses besoins. C'est l'apôtre Jacques qui nous dira ceci. Dans son épître au chapitre 4, versets 8 à 9, Jacques va dire ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il appelle simplement les hommes que nous sommes à réaliser la noirceur de notre cœur. Après avoir vu la sainteté de Dieu, après avoir réalisé que Dieu qui est sur son trône est dans sa pureté, il est pur. Et que c'est à cause du problème du péché qu'il a livré son fils Jésus pour résoudre ce problème-là, pour nous permettre de nous approcher de lui. La Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Pas un juste, pas même un seul. C'est par amour que Jésus veut régler le problème du péché avant toute chose. Et c'est par amour qu'il est venu donner la vie aux hommes. Lorsque Jésus va donner cette réponse à ces quatre hommes, en disant, après avoir vu leur foi, il va dire à cet homme, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il nous a fait savoir que ceux qui étaient là vont se dire, « Mais cet homme, c'est pas possible. Il est hors de raison. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? C'est parce qu'il ne savait pas qui il était. » Les quatre amis ont entendu parler de lui, ils savaient qui il était. C'est pour cela qu'ils ont fait cette démarche de foi, cet acte de foi pour déposer cet homme devant lui. Mais ceux qui étaient là, la plupart, les scribes, vont dire, mais non, tu es hors de sens. Mais Jésus va leur poser une question. Pourquoi avez-vous dans vos cœurs de telles pensées? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Vous savez, c'est plus facile de dire à quelqu'un « Tes péchés sont pardonnés » parce qu'on ne connaît, on ne voit pas les péchés. Je ne peux pas voir vos péchés, vous ne pouvez pas voir mes péchés. Donc c'est plus facile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a que Dieu qui voit nos péchés. Il n'y a que Dieu qui lit au-dedans de nos cœurs. Mais Jésus voulait montrer par là que non seulement il était ce Dieu qui pardonne les péchés, mais il était également ce Dieu-là qui a tout pouvoir et toute autorité, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. C'est pour cela qu'il dira ceci, Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il réalise l'impossible aux yeux des hommes. Parce que si Jésus était en premier lieu, avait dit à cet homme, voilà, en voyant la foi, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Ils auraient dit, mais non, c'est pas possible, qui peut faire ça? En répondant à ceux qui les questionnent, Jésus montre là le plus grand besoin non seulement, mais aussi sa puissance à venir en aide à ceux qui se confient en lui. Il nous a dit, et aussitôt, et j'aime cette parole, à l'instant même. Il y a l'instant de Dieu. C'est quelque chose qui échappe à l'entendement humain. C'est quelque chose qui nous dérange. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Imaginons un peu la scène. Lorsque les quatre hommes sont venus, il n'y avait pas de place et ils vont découvrir le toit pour faire passer cet homme jusque devant Jésus. Mais après le miracle de Dieu, peut-être c'est un cortège. Les regards étaient fixés sur lui maintenant. Parce qu'il nous est dit, après avoir vu cela, lorsque cet homme s'est levé, ils étaient dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Ils étaient dans l'étonnement. Parce qu'ils ont vu quelque chose que l'homme ne peut pas réaliser humainement parlant. Ils sont dans l'étonnement. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Dieu est le Dieu de l'étonnement. Dieu est le Dieu du miracle. Il veut amener les hommes à le rencontrer, à goûter à son amour. Et à sa présence, la question que j'aimerais que tu te poses, veux-tu le découvrir? Veux-tu le rencontrer? Celui qui non seulement peut résoudre ton problème, mais celui qui veut que tu sois en communion avec lui, que tu sois en paix avec lui. Le Dieu de la Bible, C'est ce Dieu-là qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. C'est ce Dieu-là qui, dans une situation improbable, difficile aux hommes, humainement parlant, nous n'avons pas la solution. Lorsque ces hommes vont apporter leur ami devant Jésus, c'est parce qu'ils n'avaient pas de solution. C'est parce que, à leurs yeux même, voilà, il fallait qu'il y ait une intervention externe pour que cet homme soit relevé de son handicap. En t'approchant de Dieu cet après-midi, tu reconnais ton incapacité à te venir en aide toi-même. Mais tu reconnais la puissance et la grandeur de ton Dieu à te secourir. Veux-tu de ce Dieu-là dans ta vie? De ce Dieu qui voit tes problèmes? De ce Dieu qui peut les résoudre? Et qui peut-être, il peut certes te donner tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, mais demain ne reviendras-tu pas encore devant lui. D'où l'important de chercher à être en paix avec lui, à le connaître de mieux en mieux. Et dès lors que tu feras de lui ton compagnon, tu pourras à chaque instant t'approcher de lui. J'aimerais que l'on prie un instant. Ces hommes vont dire, après avoir vu le miracle de Dieu, après avoir vu la puissance de Dieu, ils vont proclamer ceci: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'aimerais dire cet après-midi, oui, même si nous n'avons jamais rien vu de pareil, par notre confiance en Dieu, nous pouvons voir quelque chose que nos yeux n'ont jamais vu. Et nous pouvons proclamer que Dieu est le Dieu du miracle, il est le Dieu de la délivrance, il est celui qui opère des miracles dans nos vies, il est celui qui nous aime. Le veux-tu dans ta vie? On va fermer nos yeux, les têtes baissées, et nous allons prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui, après avoir entendu cette parole, veut dire « Je veux de ce Dieu-là dans ma vie. » Pas uniquement ce Dieu qui me bénit, pas uniquement ce Dieu qui pourvoit mes besoins, mais ce Dieu qui me connaît mieux que moi-même, ce Dieu qui lit au-dedans de mon cœur, ce Dieu qui m'aime au point de donner son Fils Jésus pour qu'il meure à la croix pour moi. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'amour et de vie. Veux-tu de ce Dieu-là? Si quelqu'un veut de ce Dieu-là dans sa vie, lève simplement la main, nous allons prier pour toi et avec toi. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Seigneur, nous nous souvenons de ce jour où tu es venu nous étonner par ton amour. Seigneur, tu nous as confondus. Tu nous as montré à quel point tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous as donné la force de t'ouvrir nos cœurs. Seigneur, nous voyons à travers ta parole que le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas ce qu'il croit. Seigneur, le plus grand besoin, c'est de faire la paix avec toi. Lorsque tu as vu la foi de ces hommes, tu as dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors je te prie en cet après-midi également, Seigneur, qu'un plus grand nombre s'ouvre à ta grâce. Que les hommes que nous sommes, nous ne venions pas devant toi uniquement pour recevoir de toi, pour être comblés dans nos besoins, Seigneur. Même si nous savons que tu es ce Dieu qui comble les besoins, même si nous savons que tu es ce Dieu qui pourvoit, Seigneur, que l'homme vienne à toi pour faire la paix avec toi, pour recevoir de toi la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'il y ait un plus grand homme qui s'ouvre à ta grâce dans cette même ville de Gap, Seigneur, et dans ses environs. Nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, qu'il y ait la foi qui soit mise en œuvre lorsqu'ils entendent parler de toi, Seigneur, lorsqu'ils réalisent qui tu es, Seigneur, qu'un plus grand nombre se tourne vers toi, Seigneur. Et toi, tu honores la foi en pardonnant les péchés et en permettant à l'homme de faire la paix avec Dieu Éternel, je veux rendre gloire à ton saint nom. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que celle-ci, Seigneur, en pardonnant les péchés pour ramener l'homme à son Créateur. Seigneur, cet après-midi, nous voulons bénir ton nom. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour toute cette journée passée sous ton regard. Oui, Seigneur, renouvelle nos forces, raccompagne chacun, Seigneur. Merci de poser ta main sur toute cette semaine à venir. Éternel, nous prions véritablement qu'il y ait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un plus grand homme qui vienne à toi. Mais nous prions, Seigneur, également que tes enfants, Seigneur, te fassent pleinement confiance. Seigneur, mon Dieu, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.